Chapitre 6. Une somme de destruction. Un tableau était une somme d'addition. Chez moi, un tableau est une somme de destruction. Pablo Picasso. 1. Le boulevard Saint-Germain s'étirait sous un soleil pâle. Platanes déplumés, immeubles en pierre de taille, cafés muséifiés, boutiques au luxe tranquille. Madeleine dépassa une voiturette électrique et mit son clignotant pour tourner rue Saint-Guillaume. Après une vingtaine de mètres, elle gara son scooter à la perpendiculaire entre une Smart cabossée et un SUV rutilant. L'adresse que lui avait donnée Bernard Bénédic était celle d'un des beaux immeubles de la rue, avec une large façade à bossage récemment ravalée. Elle sonna à l'interphone d'une porte cochère monumentale en bois verni.
« Oui ?»
siffla une voix. « Madame Lorenz ?» Pas de réponse. Madeleine joua sur l'ambiguïté. « Bonjour, madame. Je suis officier de police. J'enquête sur la disparition des dernières toiles peintes par votre ex-mari. Pourriez-vous m'accorder quelques minutes pour... »«
Va te faire foutre, connasse de journaliste !»
Madeleine recula d'un pas, surprise par la virulence de l'insulte. Inutile d'insister. Si Pénélope Lorenz était dans de telles dispositions, elle n'arriverait à rien. Elle remonta sur sa Vespa avec une autre idée en tête. Rue de l'Université, rue du Bac, boulevard Raspail, jusqu'à Montparnasse. C'est dans la rue d'Odessa que Madeleine trouva le cybercafé qu'elle cherchait, coincé entre une crêperie et un sex-shop. En poussant la porte, elle se jura qu'elle ne quitterait pas l'endroit avant d'être parvenue à ses fins. 2. Gaspard arriva en avance au restaurant. Situé à côté d'un étal de poissonniers, le Grand Café était une brasserie de quartier à la décoration un peu vieillotte mais chaleureuse. Boiserie, chaise Baumann en bois courbé, petite table de bistrot, grand miroir, carrelage à damier. Une touche méditerranéenne complétait le tableau avec de la fausse vigne qui s'accrochait au plafond comme sous une tonnelle. À midi et demi, la salle était aux trois quarts vide, mais commençait à se remplir. Gaspard demanda une table pour deux et, sans s'asseoir, y posa le téléphone qui déformait sa poche avant d'accrocher sa veste sur le dossier de la chaise. Puis il s'avança vers le comptoir, commanda un verre de Quincy et demanda s'il pouvait téléphoner. Le serveur le regarda d'un air étonné, voire suspicieux, et désigna l'appareil abandonné sur la table. « Il est cassé ?» Gaspard ne se retourna même pas. « Non, je ne sais pas m'en servir. Alors, je peux utiliser le vôtre ?» Le serveur acquiesça et lui tendit un combiné rétro. Gaspard chaussa ses lunettes pour déchiffrer le numéro noté par Pauline. Une chance, Diane Raphaël répondit dès la troisième sonnerie, s'excusant aussitôt pour la mauvaise qualité de la communication. La psychiatre n'était pas à Paris, mais dans un TGV à destination de Marseille, où elle devait aller voir un patient à l'hôpital Sainte-Marguerite. Gaspard se présenta et précisa qu'il appelait de la part de Pauline Delatour. Diane Raphaël, qui passait beaucoup de temps à New York, assura y avoir vu Asylum, l'une de ses pièces les plus noires, une critique des dérives de la psychanalyse. Avec ce texte, Gaspard ne s'était pas fait que des amis dans la communauté des psys, mais Diane n'était pas revancharde et lui assura avoir beaucoup ri. Comme il ne savait pas mentir, Gaspard joua carte sur table. Il expliqua qu'il louait l'ancienne maison de Sean Lorenz et qu'il aidait une amie policière qui s'était mise en tête de retrouver les trois derniers tableaux du peintre.
« S'ils existent, je serais curieuse de les voir. »
« Pauline m'a dit que vous aviez beaucoup veillé sur Sean la dernière année de sa vie. »«
Les deux dernières décennies, vous voulez dire. J'ai été son amie et sa psy pendant plus de 20 ans. »«
Je pensais que c'était incompatible. »«
Je n'aime pas les dogmes. J'ai essayé de l'aider comme j'ai pu, mais il faut croire qu'il existe une malédiction des génies. »
Qu'est-ce que vous entendez par là?
Le vieux principe de la destruction créatrice. Pour construire une œuvre comme la sienne, peut-être était-il inéluctable que Sean se détruise et qu'il détruise les autres.
Malgré la mauvaise qualité de la communication, Gaspard était séduit par la voix de Diane Raphaël, mélodieuse, profonde, aux intonations amicales. D'après Pauline, Lorenz était à la dérive après la disparition de son fils.
Ce n'est un secret pour personne.
Le coupa la psy.
Sean est quasiment mort en même temps que Julian. N'ayant plus rien à quoi se raccrocher, il ne se donnait même plus la peine de faire semblant de vivre. Et puis, physiquement, il était détruit. Il a subi deux lourdes opérations les derniers mois de sa vie. Plusieurs fois, il a été réanimé au seuil de la mort, mais il endurait cette souffrance comme une pénitence.
La peinture ne lui était d'aucun secours ?
La peinture ne peut rien face à la mort d'un enfant.
Gaspard ferma brièvement les yeux et avala la dernière gorgée de son verre de vin blanc, adressant dans la foulée un signe au barman pour demander qu'on le reserve. Tous les parents qui perdent un enfant ne se suicident pas, remarqua-t-il.
Vous avez raison,
admit-elle.
Chaque individu réagit d'une façon qui lui est propre. Je ne vais pas vous parler du dossier médical de Sean, mais tout était amplifié chez lui. Il a toujours eu un côté cyclothymique qui impactait sa créativité.
Il était bipolaire ?
Disons que, comme chez beaucoup d'artistes, ses réactions et ses humeurs étaient exacerbées. S'il faisait preuve d'une soif de vivre incroyable en période d'euphorie, il pouvait descendre très bas lorsqu'il broyait du noir.
Gaspard dégrafa un bouton de sa chemise. Pourquoi faisait-il cette chaleur de dingue en plein mois de décembre ? Lorraine, c'était toxicomane ? Diane s'agaça pour la première fois.
Vous posez beaucoup de questions, monsieur Coutances.
J'en conviens, s'excusa-t-il. À l'autre bout de la ligne, il percevait l'annonce de la SNCF prévenant que le train allait bientôt entrer en gare Saint-Charles.
Tout ce que Sean voulait, c'était s'anesthésier et oublier,
reprit la psy.
Il avait une peine immense à la mesure de son amour pour son fils, et il ne voulait ni être sauvé, ni être raisonné. Alors tous les expédients étaient bons, somnifères, anxiolytiques et compagnie. C'est moi qui les lui prescrivais, car je savais qu'il les aurait pris de toute façon. Au moins, ça me permettait de garder un œil sur ce qu'il ingurgitait.
La réception devenait de plus en plus mauvaise. Gaspard hasarda tout de même une dernière question. Cette hypothèse de toile cachée, vous y croyez ? Malheureusement, la réponse de la psy se perdit dans le brouhaha ferroviaire. Il raccrocha et vida de nouveau son verre. Lorsqu'il se retourna, il aperçut Madeleine qui venait d'entrer dans le restaurant. 3. Un apéritif ? Proposa le serveur après avoir posé à côté de leur table la grande ardoise qui listait les plats du jour. Madeleine commanda une bouteille d'eau pétillante et Gaspard un troisième verre de vin. Puis, avec un sourire, le dramaturge poussa vers Madeleine le téléphone qu'elle avait oublié en quittant la maison. « Merci de me l'avoir rapporté », dit-elle en le récupérant. Gaspard pensa qu'il serait opportun de faire amende honorable. « Excusez-moi pour hier soir, je me suis emporté. »«
C'est bon, laissez tomber. »«
Je ne savais pas que vous essayiez d'avoir un enfant. » Madeleine devint écarlate.
« Pourquoi dites-vous ça ?»«
C'est ce que j'en ai déduit », bredouilla-t-il en réalisant sa maladresse. « Vous avez reçu ce matin un SMS d'une clinique de Madrid qui accusait réception des résultats de votre... »«
Mêlez-vous de vos oignons, bordel ! Vous croyez que j'ai envie de parler de ça avec vous à table ?»
Je suis désolé, je l'ai lu malgré moi.
Malgré vous !
Fulmina-t-elle. Ils n'échangèrent plus un seul mot ni aucun regard jusqu'à ce qu'on leur apporte leur consommation et que le patron vienne prendre leur commande. Madeleine profita de sa présence pour sortir la boîte d'allumettes à l'enseigne du restaurant que lui avait donné Bénédicte.
Sean Lawrence était un client régulier de votre établissement, n'est-ce pas ?
Bien plus qu'un client, c'était un ami de la maison,
répondit le restaurateur avec une pointe de fierté. C'était un petit homme volubile au crâne rasé qui portait un costume trop grand pour lui et une cravate blanche à gros points noirs. Les mimiques expressives de son visage lui donnaient de faux airs de Louis de Funès.
Pendant des années, M. Lorenz est venu déjeuner chez nous presque tous les midis.
Soudainement, les yeux pétillants du restaurateur se voilèrent. Forcément, on l'a moins vu après la mort de son fils.
Un soir après le service, je l'ai même croisé ivre-mort, avachi sur un banc. Je l'ai ramené chez lui, rue du Cherche-Midi. Ça m'a vraiment fait de la peine.
Comme s'il ne voulait pas rester sur ce mauvais souvenir, l'homme fit claquer sa langue et s'empressa d'ajouter «
Les deux ou trois derniers mois de sa vie, il allait mieux. Il est revenu plusieurs fois au restaurant et… »
« Vous pensez qu'il avait recommencé à peindre ?» l'interrompit Gaspard.
« C'est certain. De nouveau, il déjeunait en noircissant les pages de son carnet de croquis, un signe qui ne trompait pas.
Vous savez sur quoi il travaillait ?
De Funès eut un sourire entendu. Comme j'étais curieux, en lui apportant ses plats, j'en profitais toujours pour jeter un coup d'œil par-dessus son épaule. Il dessinait des labyrinthes.
Des labyrinthes ?
Oui, des labyrinthes kafkaïens sans entrée ni sortie, des dédales aux embranchements infinis qui donnaient le vertige.
Madeleine et Gaspard échangèrent un regard dubitatif, mais leur interlocuteur avait gardé un as dans sa manche.
Quelques jours avant sa mort, M. Lorenz nous a fait un cadeau formidable. Il a posé une mosaïque dans le restaurant.
Ici ? S'étonna Gaspard.
Tout à fait, confirma-t-il avec fierté, dans le fond de la deuxième salle.
C'est l'une des rares mosaïques de Sean Lorenz, et en tout cas, la plus grande qu'il ait créée. Des amateurs d'art viennent en pèlerinage ici pour la voir ou la prendre en photo, surtout des Asiatiques.
Le restaurateur ne se fit pas prier pour les conduire jusqu'au fond de la salle où une fresque multicolore tapissait le mur.
Monsieur Lorenz a voulu illustrer l'énorme crocodile, le conte de Roald Dahl. C'était l'histoire préférée de son fils, celle qu'il lui réclamait tous les soirs avant de s'endormir. Un bel hommage, n'est-ce pas ?
Le panneau était constitué de centaines de petits carreaux miroitants qui rappelaient un peu les gros pixels des jeux vidéo des années 1980. En plissant les yeux, Madeleine reconnut les personnages du conte de son enfance. Un crocodile, un singe, un éléphant, un zèbre qui s'ébrouait dans la savane. Dans son genre, cette œuvre était splendide et drôle, même si elle restait anecdotique. Madeleine demanda la permission de la prendre en photo, puis elle regagna sa table en compagnie de Gaspard.
4. Elle a l'air de bien vous plaire, la petite Pauline.
Comme il l'avait fait la veille, ils échangèrent les informations récoltées chacun de son côté.
Elle est facile à vivre et pas contrariante.
C'est pour moi que vous dites ça ?
Gaspard détourna la tête pour fuir le regard de Madeleine.
Parlons d'autre chose, si vous le voulez bien.
Elle proposa une répartition des tâches. Cet après-midi, j'ai l'intention d'aller interroger Jean-Michel Fayolle, le marchand de couleurs de Sean. Pendant ce temps, je voudrais que vous passiez voir Pénélope Lorenz.
L'air sceptique, Gaspard se gratta la barbe. Pourquoi irais-je au casse-pipe ? Vous venez de m'expliquer qu'elle vous avait sèchement claqué la porte au nez.
Avec vous, ce serait différent.
Qu'est-ce qui vous fait croire ça ?
D'abord parce que vous êtes un homme, puis parce que j'ai eu une idée géniale. Avec un sourire satisfait, elle lui expliqua le plan qu'elle avait mis au point pour approcher la femme de Sean. Dans un cybercafé, elle avait créé un compte mail au nom de Gaspard et s'en était servie pour envoyer à Pénélope une demande de prêt, ou plutôt de location, de Naked, un tableau de son mari qui se trouvait toujours en sa possession.
Comprends rien, grogna Gaspard.
Pourquoi voudrais-je louer un tableau ? Ça n'a pas de sens. Madeleine poussa son assiette et déplia sur la table la photocopie d'un article du Daily Telegraph annonçant 30 représentations à Londres, au printemps prochain, du Serment d'Hippocrate, une pièce de théâtre signée Gaspard Coutances.
Vous allez louer ce tableau pour qu'il fasse partie du décor de la première de votre pièce.
Grotesque.
Madeleine continua sans se laisser démonter. Dans mon mail, j'ai proposé à Pénélope un deal à 20 000 euros. Bénédicte m'a assuré qu'elle avait besoin de cash et qu'à terme, elle souhaitait vendre le tableau aux enchères. S'il y a une occasion de médiatiser la toile avant sa vente, vous pouvez être certain qu'elle ne va pas la laisser passer.
Furieux, Gaspard fronça les sourcils. Vous avez usurpé mon identité.
Détendez-vous, c'était pour la bonne cause.
Les grands principes, c'est toujours pour les autres, c'est ça.
Je déteste les gens comme vous.
Les gens comme moi ? C'est-à-dire ?
Je me comprends.
Vous êtes bien le seul.
Toujours en colère, il haussa les épaules.
De toute façon, la mère Lorenz ne croira jamais de telles inepties.
Détrompez-vous,
rétorqua Madeleine, triomphante. Figurez-vous qu'elle m'a déjà répondu et qu'elle vous attend chez elle dans une demi-heure pour en parler.
Gaspard ouvrit la bouche pour protester, mais se contenta de pousser un soupir résigné.
Madeleine profita de son avantage.
Après mon entrevue avec Fayolle, j'ai rendez-vous avec une vieille amie qui fait escale à Paris. Quand vous aurez vu Pénélope, retrouvez-moi au sémaphore pour faire le point.
Qu'est-ce que le sémaphore ?
C'est un petit café à l'angle de la rue Jacob et de la rue de Seine.
Il faisait tellement chaud que
le restaurant avait ouvert ses baies vitrées. Comme Madeleine voulait fumer, ils s'installèrent en terrasse pour boire leur café. Songeuse, Madeleine roula sa cigarette en silence tandis que Gaspard, perdu dans ses pensées, se brûlait la gorge avec le verre d'Armagnac offert par le patron. Même s'il n'osait pas le formuler, force était de reconnaître qu'il formait à présent un improbable duo d'enquêteurs. L'œuvre magnétique de Lorenz les avait contaminés. Elle exerçait sur eux son emprise. Tout ce qui, de près ou de loin, entourait le peintre, le sens de sa peinture, les zones d'ombre de sa vie, revêtait pour eux une aura de mystère et la promesse irrationnelle que, une fois percés à jour, les secrets de Lorenz deviendraient leurs secrets. Sans se l'avouer, Madeleine et Gaspard s'accrochaient tous les deux à la croyance folle que ces secrets leur livreraient une vérité, car en recherchant ces tableaux, c'était aussi une partie d'eux-mêmes qu'ils traquaient.